Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute. C'est le programme Biotope, une émission partagée par les équipes de RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope, une mise en lumière de la Biovallée. Je vous propose aujourd'hui un format un peu particulier. Il s'agit d'une discussion franche et ouverte avec un maraîcher bio installé depuis près de 4 ans dans le Diwa. Nous abordons son parcours et son métier avec toutes les difficultés que comporte ce travail, à la fois agricole mais aussi de gestionnaire avec les ventes sur le marché et l'approvisionnement de la SCIC La Carline, magasin bio à Die. Ce témoignage met en avant un flagrant manque de soutien au développement du maraîchage, voire au maintien même des activités existantes. Alors que la demande en légumes bio ne cesse d'augmenter, les producteurs restent comme les enfants oubliés de la Biovallée. Intercalé dans la discussion, vous entendrez la capsule réalisée par Louis, mise en lumière de La Carline justement, sur la question de la gestion du circuit court de maraîchage Diwa. Bonne écoute. Eh bien, je suis avec Guillaume Etienne, maraîcher à Saint-Romand. On est sur ton domaine, il fait beau. Salut à toi, on se connaît pas mal, donc on va se tutoyer. Salut, pour cette interview.
Salut Baptiste.
Je souhaitais te rencontrer pour qu'on parle un petit peu de ton métier de maraîcher bio, ici, maintenant, au moment où tu as décidé de le faire. Te connaissant aussi un peu, je sais que tu as mis beaucoup de temps à trouver des terres. Et en fait, c'est un peu tout ça que j'ai envie qu'on évoque aujourd'hui.
D'abord, j'ai pas mis beaucoup de temps à trouver des terres. J'ai mis un an à trouver des terres. Ça fait longtemps que j'ai ce projet dans la tête, mais à partir du moment où j'ai cherché et à partir du moment où j'ai trouvé, enfin où on m'a proposé des terres, c'est passé une année à peu près. Donc je suis sur les terres de monsieur Jean-Marie Verdet, qui m'a installé, qui a fait plus que m'installer parce qu'il m'a aidé financièrement aussi au début, et il m'a prêté pas mal, et il me prête encore beaucoup de matos. Donc voilà, c'est une installation bien aidée quoi. Et ça fait 4 ans aujourd'hui.
Et tu dis ouais, et ce projet d'installation mûrit-il, enfin à quel moment il mûrit, et est-ce que tu peux comme ça resituer un peu l'importance que peuvent avoir les agriculteurs ancrés et qui ont beaucoup de terrain justement pour ce projet qui aurait peut-être pas pu voir le jour sinon.
Alors il y a 50 réponses dans ta question là. Je suis pas du tout Diwa, je suis Ardéchois, c'est pas très loin, mais je suis pas Diwa. Par contre, ça fait longtemps que je connais le Diwa, hein, parce qu'on, oui, a fait un paquet de vendanges ensemble. Ça fait 5 ans que je suis dans le Diwa, ça fait à peu près 15 ans que je connais la région. Et ce projet, je suis pas du tout issu de milieu agricole, pas du tout du tout. Mes parents, ils étaient profs tous les deux. Et d'ailleurs, moi, je me destinais à être instituteur. Pendant mes études à Lyon, je me suis rendu compte que la ville et tout ça, ça me faisait bien chier en fait. Du coup, j'ai arrêté et j'ai fait un petit retour aux sources. Je suis retourné en Ardèche et là, j'ai bossé dans un jardin de cocagne comme jardinier et ça m'a super botté. Et du coup, j'ai enchaîné des saisons d'ouvrier agricole pendant plusieurs années. Après une formation au maraîchage, après encore des saisons au maraîchage comme ouvrier agricole et divers trucs. Et puis voilà, et à bout d'un moment, je me suis dit, bah, il faut que je m'installe parce que ça me plaît.
Et alors le rôle de Jean-Marie dans tout ça, enfin, et le rôle peut-être d'autres gens d'ailleurs.
Alors le rôle de Jean-Marie, c'est que c'est quelqu'un qui avait pas mal de terres, puisqu'il fait des céréales entre autres choses. Et voyant que j'étais motivé, que je cherchais et que je ne trouvais pas, il m'a proposé un petit bout de terre la première année, 8000 m2. Et là, je suis à 1,5 hectare à peu près, quoi, la deuxième année. Je pense que des gens comme lui, qui ont accepté de me louer des terres contre 100 euros de loyer, parce que c'est à peu près ça, ou 150 euros par an, c'est super sympa dans le sens où il gagne rien. Il gagne lui le fait qu'il installe quelqu'un, mais financièrement il gagne rien. Là où c'est super dur pour moi encore, parce que je cherche d'autres terres et pour d'autres gens pour trouver des terres, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont pas mal de terres mais qui lâchent rien, même s'ils en font rien, parce que les primes elles rapportent beaucoup plus qu'un loyer par an quoi. Et du coup il y a des terres qui sont limite en friche, les gens ils en font rien, mais ce qu'ils gagnent avec les primes dessus c'est vachement supérieur à un loyer, donc voilà, il ou pas.
Ça, tu t'es rendu compte de ça au moment où tu cherchais justement ?
Alors au moment où je cherchais un peu, mais je connaissais pas encore trop et je connaissais pas encore trop les gens. Ce qui était pas mal, c'est que j'ai passé un an à bosser de droite à gauche avant de m'installer. Donc du coup, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs, saisonniers dans pas mal d'endroits quoi. Et ben, je me rends compte qu'il y en a plein qui aimeraient bien. Hein. C'est pas forcément des connards hein, s'ils lâchent pas leur terre, mais ils veulent pas parce que ça rapporte des sous en fait. Quelque part, ils ont raison parce que c'est bien pour eux. C'est dur pour des petits maraîchers comme nous, parce que tous, autant qu'on est, on est des petits maraîchers dans le coin. Et on aimerait bien trouver d'autres terres, et c'est compliqué, quoi.
Et pour terminer avec ce rapport avec Jean-Marie, particulier et très, très agréable, est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer, dans lequel tu t'es promis de lui donner plus tard, si ça fonctionne ?
Non, c'est pas son objectif non plus. Après, moi, mon objectif, c'est pas non plus de rester ici, parce qu'il est au maximum des terres qu'il peut me lâcher. Moi, j'ai pas assez. Je suis sur un plan secret dont je ne dirai rien.
D'accord, pas de scoop. Alors maintenant, on va parler vraiment du maraîchage. On t'a entendu plusieurs fois dire que tu cherchais des terres. Ouais. Ce projet de maraîchage, c'est donc de fournir des légumes, peut-être à toi d'abord, mais aussi, et ça, les gens peut-être te connaissent un peu dans le Diwa, sur le marché. Et puis, il y a la carline aussi que tu approvisionnes en partie. Alors, comment ça se passe ? Tu pars d'une petite serre et tu grossis parce qu'il y a de la demande, ou alors ça faisait aussi partie de ton projet d'être vraiment fournisseur, et donc il en faut beaucoup.
Moi, comme j'étais ouvrier agricole avant, je connaissais le boulot de manard, je connaissais le boulot de binet, désherber à fond la caisse, mais je ne connaissais pas les responsabilités et tout ce que ça engendrait, et gérer l'approvisionnement et tout ça. Et là, je l'ai découvert. Je pensais qu'en m'installant avec la surface que j'avais, ça allait suffire largement. Je me suis rendu compte que moins d'un hectare, c'était vraiment pas possible. Donc je suis passé à un hectare et demi, et c'est toujours pas possible.
Pas possible comment ?
Par exemple, à cette saison, malgré 1500 m² de serre, à 10h du matin, mon stand il est vide au marché. Et la carline, j'approvisionne, mais j'approvisionne un tout petit peu. Hein. On est plusieurs à approvisionner la carline. Et donc c'est pas assez, quoi. En fait, il me faudra plus de serre, et je pourrais les poser ici. Mais là, c'est un peu les sous qui manquent pour l'instant. Mais plus de terre pour faire plus de cultures pour l'automne et l'hiver, où là on cartonnerait en magasin et sur le marché, quand plus personne a de légumes en fait. Moi je suis entre le gros jardinier et le petit maraîcher, quoi.
C'est marrant parce que tu donnes l'impression de dire il faut que je produise plus parce qu'il y a une vraie demande. Donc tu es en train de saturer. Mais toi, voilà.
Et parce que j'en vis pas.
Ok.
Parce qu'actuellement, moi je m'en fous de parler de chiffres. L'année dernière, je me suis mis 7000 euros dans la poche.
C'est dû à quoi ?
C'est dû au fait que y a des erreurs de ma part, ça c'est sûr. Parce que le maraîcher, il est responsable à 99% du temps. Ça, c'est sûr et certain. Après, c'est dû aussi au fait que j'arrive pas à produire plus. J'ai pas assez de place. Après,
c'est-à-dire qu'après, c'est des charges qui te coûtent beaucoup.
Alors, les charges, elles me coûtent pas mal. Mais encore une fois, je suis entre les deux. Parce que j'embauche 6 mois à mi-temps, ce qui n'est pas assez. Ce qu'il faudrait, c'est plus de terres pour embaucher quelqu'un à plein temps pendant 6 mois. Et le salaire serait largement payé par rapport à la quantité de légumes que je pourrais vendre. Quand je vois les marchés que je pourrais faire maintenant, c'est sûr et certain que...
Donc c'est ça, c'est que t'es un tout petit peu trop petit pour vraiment bien vivre.
Soit je suis trop gros, il faudrait que je sois un petit peu plus petit, que j'embauche personne. Mais bon, c'est pas trop possible parce que j'ai 2 enfants en bas âge et que j'aime bien les voir un peu aussi, quoi. Ouais, c'est ça, je suis entre les deux en fait.
Tu sais que cette émission rentre dans le cadre d'un cycle d'émissions qui relate un petit peu ce qui se passe en Biovallée. Plusieurs fois, tu m'as dit, mais moi, Biovallée, je sais à peine ce que c'est.
Franchement, pour moi, j'ai l'impression que c'est une marque. Après, j'y connais rien, je suis pas allé chercher, j'ai pas lu de documents ou quoi. Mais en tant qu'agriculteur bio depuis maintenant bientôt 4 ans, j'ai jamais été sollicité. Pour moi, sans jeter la pierre ou quoi, hein, je juge personne, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui se font une image de marque sur un territoire en disant, regardez, la bio en Drôme, c'est super, dans le Diwa, c'est génial, il y en a plein. Mais les propositions, les répercussions, les gens, j'en sais absolument rien en fait. J'en sais rien du tout, quoi. À part que c'est une jolie étiquette, j'en sais rien, quoi. Après, peut-être que c'est plus que ça, j'espère, mais... Pour l'instant, c'est la seule idée que j'en ai, quoi.
Alors, si on considère, et tu l'as assez bien dit, que Biovallée, en fait, c'est vous, c'est toi, c'est les agriculteurs qui vivent et qui font du bio dans cette vallée, qu'est-ce que t'attendrais en tant que maraîcher bio ? Qu'est-ce que t'attendrais des élus, d'un certain nombre, voire d'une marque, peut-être ?
Waouh ! Moi, ça fait longtemps que je dis que la bio, elle a besoin... Si on a envie d'être en bio, c'est parce qu'on n'a pas envie de balancer des saloperies dans le sol Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font à la main. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font pas que avec un pchit et un tracteur, quoi. Et du coup, on a besoin de mains en plus. Mais ces mains-là, il faut les payer. Et du coup, je pense qu'une aide à l'embauche serait vraiment la bienvenue. Parce que pour bosser en bio, il faut être plus que 2 mains, quoi. Il faut être... Heureusement que j'ai un bon réseau de potes, en fait. En fait, ce qui est assez aberrant dans mon histoire, c'est que ça commence à tourner un petit peu, malgré le peu de salaire que je me tire, parce que j'ai des potes qui me donnent des coups de main, en fait, et gratuitement, enfin, contre des légumes, et voilà, mais c'est... Il n'y aurait pas ce réseau de potes que j'ai, juste, j'aurais fermé boutique, en fait, là. Surtout un ami qui vient super régulièrement m'aider, en fait, bénévolement.
Tu es en train de parler du moment où tu pourrais grossir et te mettre à embaucher, mais en fait, c'est quasi impossible.
Je sais pas, cette année, c'est une année un peu charnière pour moi, parce que la première année, quand je me suis installé, j'avais encore des droits à CEDIC, donc ça, ça m'a permis de vivre. Ensuite, j'ai eu la DGA, l'aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs, ce qui m'a aidé à vivre aussi. Mais là, maintenant, tout ça, c'est fini. Et c'est la première année où j'ai que les sous qui vont venir de l'exploitation, quoi. Et d'ailleurs, ça se voit sur mon compte en banque. Et donc, ouais, cette année, c'est une année un peu charnière. Voir est-ce que c'est vraiment possible d'arriver à en vivre juste avec les fruits de mon salaire, quoi. Sachant que, contrairement à d'autres productions, j'ai zéro prime. En fait, si je demande les primes, je crois que j'ai à peu près 100 euros d'aide, en fait. Je ne vais pas me faire chier à faire des papiers, c'est bon.
Ces primes qui correspondent à quoi?
Eh bien, par rapport à la surface et par rapport à ce que tu cultives sur tes terres. Ouais. Le maraîchage, c'est... Je crois que l'aide en bio... Peut-être je dis une connerie et peut-être je vais faire hurler des gens, mais tant mieux, comme ça ils m'appelleront pour me dire que je me suis trompé. Mais je crois que là, dans bio, en maraîchage, c'est 50 euros l'hectare. C'est que dalle. Enfin, c'est juste, je vais pouvoir m'acheter des clopes, c'est cool.
Ouais. Primes qui viennent de l'État, donc oui, là, pour le coup...
Ouais, tout à fait.
Et localement, il n'y a absolument rien, le département
À ma connaissance, non. Alors, encore une fois, c'est bien que je passe à la radio, parce que peut-être je dis des grosses conneries, mais à ma connaissance, non.
Revenons maintenant vraiment à ton travail de maraîcher. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type, et puis un mois type, une année type, qu'on comprenne un petit peu, justement... Si c'est difficile, et aussi ce choix de vie peut-être que tu fais en te donnant dans un boulot dont on a bien entendu depuis le début que c'est pas forcément ce qui va te faire vivre rapidement, quoi, et bien.
Et ben, tu vois, cette année, je commence à me poser la question pourquoi je suis maraîcher, quoi. Sachant que je gagne pas grand-chose et que j'ai très peu de temps pour moi, et que dès que je prends du temps pour moi, ça a une répercussion sur le boulot, quoi. Alors, il n'y a pas d'année type, il n'y a pas de journée type. Par exemple, cette année, elle est loin d'être une année type. On a eu un mois de mars où il faisait super chaud, un mois d'avril où on a crevé de froid, ensuite des pluies qui ne s'arrêtaient plus, ensuite un vent qui ne s'arrête plus. Il n'y a pas d'année type, quoi. En fait, moi, ma saison, elle commence... Bon, il y a toujours du bricolage l'hiver et tout ça, mais ma saison, elle commence à partir du mois de février, où je commence les premières plantations sous serre, les premiers semis, où là, on va dire que je bosse normalement. Je dois être à 35-40 heures par semaine. Et dès le mois de mars, ça s'accélère beaucoup, beaucoup. Et à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre, on touche plus tard. Alors, je me force à sortir quand même, je sors quand même. Mais il y a des moments où, voilà, il y a peu d'heures de sommeil, quoi. Parce que tu as envie d'avoir une vie sociale un peu aussi. Je connais quelqu'un qui bosse tout le temps et c'est super. Et Julien à Barsac, c'est un super maraîcher, lui. Lui, il assure grave. Il fournit vachement bien. Mais il bosse tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Donc à la question que tu as posée toi-même, pourquoi est-ce que je veux être maraîcher, est-ce que tu arrives à y répondre là, c'est quoi?
Avant d'être maraîcher, il y avait un peu cette image pas forcément idyllique, parce que je connaissais un peu en tant qu'ouvrier agricole, mais d'avoir ma maison et mes terres en face, chose qui n'est pas du tout le cas. J'habiterais en face de mes terres, déjà ma vie elle serait différente, quoi. Ça c'est surtout avec deux petits-enfants, ça c'est sûr et certain. Là, j'ai l'impression de râler et tout ça, et c'est vrai que je râle beaucoup en ce moment, mais j'adore ce boulot en même temps. J'adore voir pousser ça, j'adore aller du semis à la récolte, j'adore voir quand ça marche bien, je trouve mes champs super jolis, mes serres super jolies. Il y a aussi ce côté un peu couillon, j'aime bien bosser, quoi, aussi. J'aime bien ce côté-là, quoi. Après, faut pas que ça bouffe trop non plus. J'ai découvert l'année dernière que j'aimais bien faire autre chose aussi, quoi. Style, je suis parti en vacances avec mes enfants, un truc de dingue. Et j'ai bien aimé. Ouais, ouais.
Maintenant, je voulais aller un peu dans la partie politique de ce travail. Je suis arrivé, tu étais en train de préparer des semis en caisse, etc. Avec ton petit sachet de graines. Alors, d'où viennent-ils? Est-ce qu'il y a un engagement là-dessus? Est-ce que quand on est en bio, on achète quand même les graines certifiées de machin truc?
Quand je me suis installé, j'étais super...
Militant?
Enfin, pas militant, mais je dirais borné. Mais pas dans le mauvais sens du terme, mais je voulais faire que des vieilles variétés parce que j'avais cette idée là. Effectivement, il y a plein de vieilles variétés qui sont super bonnes, il y en a plein qui sont super bonnes et qui sont juste pas du tout rentables dans le sens où elles produisent que dalle, quoi. Maintenant, depuis l'année dernière et donc cette année aussi, je fais des deux, je fais des vieilles variétés, je fais des variétés plus récentes et oh mon dieu, je suis passé aux hybrides aussi. Quelques légumes, à savoir les courgettes, des tomates, des carottes, des aubergines et choux-fleurs qui sont hybrides chez moi. C'est pas mauvais, c'est bon même. C'est moins bon, c'est sûr. Mais du coup, j'en fais d'autres aussi qui sont très bonnes, mais ça produit vachement plus. Ouais, et bon. Au bout d'un moment, t'as un peu envie de gagner ta vie, quoi. Par contre, voilà, effectivement, ouais, toutes les graines sont certifiées en bio, ça c'est sûr. Il y a des fois des problèmes d'approvisionnement où t'as une variété que tu trouves pas en bio, du coup, tu la prends en non traité. Du coup, il faut faire une demande de dérogation avec OCERT et tout ça. Le terreau est en bio, le compost est en bio, tout est en bio en fait. Et il y a un côté militant, ça c'est sûr et certain, dans le sens où je bouffe bio depuis super longtemps et que j'ai juste pas envie de produire de la merde quoi.
Tout est en bio, mais tu achètes tout.
Alors j'achète tout parce que j'ai pas du tout, par exemple par rapport aux semences, moi je considère, alors ça c'est à mon nom, que maraîcher et semencier c'est deux boulots. Différent, bien différent quoi. J'ai pas le temps ni la place de faire mes semences quoi. Si je dois laisser monter en graines des salades, ça veut dire de la place pas utilisée quoi. Moi, quand ma planche de salade elle est finie, s'il en reste 4 ou 5, je les broie et je passe à autre chose quoi. Et je sème des courgettes ou autre chose. Enfin, il faut. Le maraîchage, c'est une succession de légumes après légumes quoi. Dans les serres, il y a 3 cultures par an et dehors, c'est entre 1 et 3 cultures par an. Donc ça tourne tout le temps quoi. Et ensuite m'occuper des porte-graines et tout ça, je peux pas, c'est un boulot particulier quand même. Par contre les gens qui font ça, je trouve que c'est super bien, parce que je comprends bien le côté
hors des circuits
ça c'est sûr, mais il y a aussi un côté pratique et professionnel, dans le sens où c'est ta variété, c'est toi qui l'as faite, elle est issue de ton terrain, elle est pour ton terrain, elle a bien marché sur ton terrain, donc ses descendants a priori marchent bien sur ton terrain en fait.
Tu nous as cité ce cycle des planches là, dans les serres. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ?
Grosso modo, voilà, par exemple, en février, je fais le premier semis de radis dans une serre. Après, il y a des courgettes qui sont plantées. Que j'ai plantées il y a un mois. Et là, je vais en replanter d'autres la semaine prochaine. Et après, ces courgettes-là, il y aura soit de la mâche, soit des épinards, soit de la salade, soit... Enfin, c'est... Il faut que ça tourne tout le temps, en fait. D'où l'intérêt d'avoir plus de serres aussi, c'est que tu peux plus faire tourner.
Alors là, il y a aussi un rapport comme en agriculture de différents niveaux, les plantes vont pomper.
Ouais, tu fais gaffe, tu fais pas succéder n'importe quoi après n'importe quoi, quoi. Enfin, il faut faire gaffe, essayer de pas mettre des légumes de la même famille. Surtout, il y a des légumes qui craignent plus que d'autres. Si l'aubergine, tu remets jamais une aubergine à la même place d'une année sur l'autre, quoi. C'est pas que pendant la saison, c'est aussi d'une année sur l'autre où il faut faire attention. Ça d'ailleurs, c'est assez compliqué. Dans les serres, ça va, mais dehors, c'est assez dur de se rappeler où est-ce qu'on a mis quoi d'une année sur l'autre.
Et sur la partie bio, donc tes fertilisants, est-ce que tu les fais toi-même ? Est-ce que tu plantes des comment on appelle ça, des plantes qui vont bien avec là ?
Non, alors je fais pas du tout de plantes, de culture de plantes associées ou d'engrais verts. L'engrais vert, j'aimerais bien, mais ça, c'est par manque de place. Pour faire pousser un engrais vert, et pour ensuite le broyer, l'incorporer, tout ça, il faut avoir de la place, quoi. Après, j'utilise à 80%, on va dire, du compost, mais c'est de plus en plus dur d'en trouver. Chose qui est bien, ça veut dire que les éleveurs, ils l'utilisent, mais du coup, pour les maraîchers, c'est plus chiant. Qui vient de chez David à Vacher, qui est éleveur de vaches laitières en bio. Et là, du coup, par manque de compost, je suis obligé d'acheter des fertilisants en bio, issus pour la plupart de déchets de culture, de déjections de bovins. Et malheureusement, il y a un autre fertilisant qui est issu de déjection de poulets en batterie.
Mais bio.
Non, c'est pas du tout en bio, c'est là la grande aberration. C'est que ces élevages-là ne sont pas du tout en bio.
Et c'est les fameux 0, quelques pourcents que l'Europe au-dessus.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est garanti sans OGM et tout ça. Mais par contre, voilà, c'est issu d'élevages qui sont des élevages de merde, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Mais après, voilà, et où trouver le compost, où trouver... J'en mets du compost, hein, et j'en mets un paquet, mais j'en ai pas assez pour tout mettre. Il y a des aberrations dans le bio quand même. Il y a des choses qui vont pas trop.
Ouais. On va parler un peu de local. Quel est ton rapport avec la Carline, la coopérative du coin, justement sur cette partie à pro ?
Alors la Carline, on est plusieurs à les fournir. Donc il y a Julien à Barsac, il y a Jeanne et Jérôme à Châtillon, il y a Jérôme Munoz à Die, il y a Pierre et Mélanie à Minglon. Et moi, et je crois que j'oublie personne, s'il vous plaît, je crois que j'oublie personne. Moi, la Carline, j'aime bien les fournir parce que c'est un magasin où je vais faire mes courses depuis que je suis dans le coin, quoi. Et donc ça me fait plaisir qu'il y ait des légumes à moi dans le coin. Ça me facilite pas trop le boulot, mais j'ai envie qu'il y ait des légumes à moi à la Carline, quoi. Après, ils s'arrachent un peu les cheveux avec moi. Je suis un peu le pro de oui, je vous fournis ça, ben non, finalement, j'en ai pas assez. Ça, c'est un peu raide pour eux, je pense.
Voilà, mais ça se passe bien quand même.
On essaye que ça se passe bien, en tout cas.
Donc c'est vraiment un désir de ta part, c'est pas forcément une demande.
Alors si, c'est une demande de leur part, parce qu'ils ont aussi envie qu'il y ait des légumes de tout le monde qui soient à la Carline. Après, moi, ça fait deux ou trois ans que je dis j'arrête cette année, j'en ai marre et je continue quand même, parce que merde, ça me fait plaisir en fait. Et puis ouais, si je me démerdais mieux, parce qu'encore une fois, je suis jeune maraîcher, et du coup, c'est pas facile d'arriver à anticiper les quantités en fait. Sachant que ça marche de mieux en mieux. Là, même si je suis sec à 10 heures au marché, j'ai jamais... vendu autant de choses, même si mon stand il ressemble à rien, il n'y a pas grand chose, c'est mieux que l'année dernière, il y a plus de choses et c'était mieux que l'année d'avant. Et j'arrive pas, et la Carline là ils sont en train d'exploser. Par exemple, avant ils me demandaient 40 salades, là ils m'appellent, il me faut 200 salades. Enfin, c'est hyper dur en fait d'arriver à gérer les quantités, pour moi en tout cas. Hein, c'est pas évident quoi.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Gilles Chabanet, le directeur de la Carline, est venu nous parler de maraîchage, de circuits courts et de la façon dont la Carline gère ses circuits courts. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors, qui a porté le projet ? Est-ce que ça a nécessité une infrastructure particulière à l'intérieur de la Carline ?
Oh ben non, le portage du projet, c'est la Carline en tant que telle. C'est-à-dire que dans notre organisation sur la valorisation des produits, sur la vente, on a aussi un volet où on cherche à s'approvisionner localement et donc on assume aussi le travail qui est en amont. Donc le lien avec les producteurs locaux, c'est nous qui l'avons développé avec les maraîchers. Au départ, on travaillait principalement avec un seul maraîcher. Et puis, ce maraîcher-là, il souhaitait lever le pied. Et du coup, nous, on a cherché plutôt à bosser avec un peu plus de maraîchers en bio du Diwa. On en a 5 sous la main, entre guillemets, avec qui on s'est concerté pour organiser l'offre des produits bio. Donc, l'idée en amont, ça a été de se partager un gâteau qui était grandissant, qui était les légumes, la vente des légumes à la Carline, puisque ça commence à prendre des proportions relativement importantes. Et nous, on souhaitait que ce soit aussi un vecteur pour mettre en lien les producteurs entre eux, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres espaces de rencontre pour discuter de leurs pratiques et de leur métier. Donc, l'organisation de l'approvisionnement, c'est pour eux le moyen d'en discuter avec nous et du coup aussi de discuter entre eux de leur technique de production, de leur prix de vente, de choses comme ça. Donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est à les mettre autour d'une table. On les met autour d'une table environ 3-4 fois par an pour discuter de l'organisation de l'approvisionnement de la Carline, c'est-à-dire qui va faire quoi comme légumes tout au long de l'année, des périodes, des règles de fonctionnement communes et puis des prix d'achat aussi pour que chacun y voit clair, savoir s'il s'engage ou pas. Donc ça, c'est voilà, en termes de temps, c'est 3-4 réunions par an, ça veut dire entre 4 et 6 jours de boulot, nous, à notre niveau. Les résultats, ils sont quand même vachement positifs parce qu'on a commencé à mettre en place ça en 2010-2011, sur la campagne 2011. Au début, ce qui a été un peu difficile, c'est de l'organisation au quotidien de l'approvisionnement parce qu'il faut le temps que tout le monde se rôde. Il faut le temps aussi que les maraîchers ils arrivent à se rôder. Ça demande aussi une démarche de professionnalisation de leur part. Nous, de mieux coller aussi à leurs attentes, à leur rythme de travail. Donc, on a quelqu'un au niveau de l'équipe qui est plus sur ce rayon-là. Ensuite, ça a permis de développer assez fortement les ventes, c'est-à-dire l'approvisionnement local. On est arrivé à réduire la part de l'approvisionnement non local en maraîcher en développant la part des légumes locaux, quoi. Donc ça, ça a vraiment commencé en 2011 très fortement. Et là, en 2012, on est sur la même lancée. On redémarre la campagne en étant très optimiste.
Est-ce que ça vous a coûté quelque argent ou en tout cas quelque temps pour mettre en place ça, y réfléchir peut-être auparavant ?
Le temps, oui, parce que c'est du temps, on va dire, pour organiser et planifier l'approvisionnement. Donc ça, c'est les 3-4 réunions par an dont je parlais, sachant qu'à chaque fois, on est entre 2 et 3 salariés de la Carline à être présents sur ces réunions-là. Donc c'est vrai que ça fait vite du temps salarié derrière, ça représente un coût. Et puis l'autre temps derrière qui est aussi extrêmement important, c'est l'organisation au quotidien de l'approvisionnement en produits. Dans toutes les relations au quotidien avec les producteurs, ça c'est très énergivore. C'est à la fois très riche, puis c'est par là que passe le travail, mais ça demande beaucoup plus de temps que de passer directement par une plateforme. L'ensemble de ce temps-là qu'on passe à la valorisation des produits locaux au niveau de la Carline, c'est à peu près un plein temps en magasin sur l'année, sachant qu'on a 4,5 personnes qui sont sur la vente dans l'épicerie, donc c'est quasiment le quart du temps de travail des salariés qui est consacré à ces relations au quotidien avec les producteurs. Sachant que c'est vrai que nous, dans nos règles, quand on n'arrive pas à trouver auprès de Pierre des salades, on va se retourner vers Paul, Jacques, et avant de passer sur une plateforme. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de temps pour passer des commandes. Et du temps aussi en aval, alors ça c'est plus à mon niveau, sur la régulation, parce que ça peut être parfois source de difficultés en termes de fonctionnement, et tout ça, il faut le réguler.
Si c'était à refaire, vous le referiez, vous êtes content ?
Ah oui, le bilan nous qu'on en tire, il est extrêmement positif parce que ça veut dire que la retombée de la vente des produits bio, elle est bien locale. Et ça, c'est bien l'objet de la Carline, c'est pas de développer le bio pour le bio en termes de vente, c'est que ça bénéficie au territoire et aux paysans qui y vivent.
Dernière petite question, Gilles Chabanet. Si quelqu'un était intéressé par votre démarche, qui contacterait-elle ?
Le plus simple à ce niveau-là, c'est qu'il me contacte directement à la Carline, au 04 75 22 08 11.
Merci bien.
Au revoir.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Si Biovallée ou la Carline par exemple, ou encore autre chose, tu pourrais te mettre à rêver. Est-ce que tu pourrais avoir un besoin particulier, je ne sais pas, une coopérative de maraîchage, tout ce que tu viens de dire là qui sont des problèmes de gestion, est-ce que tu pourrais formuler un besoin, quelque chose qui pourrait être bien à monter dans le coin?
Bah nous on y réfléchit un peu avec, mais là c'est plus perso quoi, avec Jeanne et Jérôme à Châtillon, d'abord parce que c'est des potes et qu'on est en face au marché, qu'on a exactement les mêmes légumes, les mêmes variétés au même moment, enfin à peu de choses près quoi, et on se regarde comme des couillons l'un en face de l'autre, et on aimerait bien, dans l'idée, bosser ensemble, peut-être s'associer un jour, ça on sait pas. Mais en tout cas, on teste cette année, on fait quelques cultures ensemble pour voir comment ça peut se passer. Alors on se prête du matos, enfin c'est surtout eux qui m'en prêtent d'ailleurs. L'idéal pour moi, ce serait arriver à bosser à plusieurs en fait. Je me rends compte des limites de mon boulot et que seul, surtout papa seul, c'est dur. Alors, mais après, formuler un souhait par rapport à... On a essayé un peu, il y a un gars de la chambre qui nous a suivis il y a quelques années pour mettre en place justement une sorte de Kuma par rapport à du matos, tout ça, mais de fait, on est quand même éloigné. Pierre et Mélanie sont à Minglon, Jérôme il est à Die, et faire tourner un broyeur, un épandeur, un truc. Enfin, tu vas pas aller en tracteur chercher ton broyeur, quoi, à Die, c'est pas possible, quoi. C'est... Avec Jeanne et Jérôme, on essaye de faire ça, et malgré qu'ils soient à Châtillon, c'est qu'à 8 km, c'est super chiant.
C'est plus déjà très bio.
Ouais, enfin bon, faut pas exagérer non plus, mais. Ça va, en plus mon tracteur il consomme que dalle, hein. Tu sais, je crois que je suis entre 150 litres et 180 litres par an de gasoil, ça va quoi. Bon après je fais pas les labours, c'est Jean-Marie qui les fait. Mais tout le reste, ouais ça va, au point de vue consommation de gasoil, je pense que j'ai eu la conscience tranquille.
Est-ce qu'il y aurait aussi une possibilité d'entraide? Je pense, je reprends encore l'exemple vraiment des vignerons ici qui pour la plupart s'entraident,
ouais,
beaucoup.
Ça n'a rien à voir parce que les viticulteurs, ce qu'ils font c'est super bien, mais ils ont une production à un moment de l'année et qui est la même.
Bien sûr.
Et en quantité, nous on travaille sur des petites quantités en fait et de 30 variétés de légumes différents, donc si une année je foire complètement mes choux, je peux pas compter sur les copains pour me fournir en choux, ils vont pas anticiper style ah ben tiens au lieu de 2500 choux je vais en semer 5000, youpla boum quoi, c'est pas possible de tout. Nous notre problème on l'a choisi hein, c'est qu'on est maraîcher et qu'on fait les marchés et que du coup on se doit de l'avoir de la diversité. Si t'as que deux légumes sur ton stand, les gens même s'ils ont envie de ces deux légumes ils vont pas s'arrêter, ils s'en foutent, ils veulent de tout quoi.
Mais quand on arrive à la Carline par exemple, on a de tout mais on sait pas qui a apporté quoi.
Mais encore une fois, même Julien qui commence à faire des volumes corrects, il n'a pas non plus des volumes de malade quoi. Ouais. C'est pas si je foire mes patates, il peut pas me fournir en patates, c'est pas possible quoi. Et ouais. Il les garde pour lui. Mais après, il y a aussi un truc. Enfin là, je parle en mon nom, mais je pense que c'est ça devrait parler un peu à tout le monde peut-être. C'est que les maraîchers, c'est tous des malades mentaux. Je veux dire, pour s'installer comme maraîcher, il faut être un peu con déjà à la base. Et que je trouve c'est bien de vouloir faire des choses à plusieurs. Et moi, je tends à ça. Mais si on s'est tous installés individuellement, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on aime bien ça. Et on aime bien faire les malins, arriver à faire, t'as vu, j'ai des courgettes au mois de mai, quoi. Et on est un peu con, quoi. Même si avec l'âge et l'expérience, ça se calme. Mais on aime bien faire nos trucs dans nos coins aussi, quoi. Après, moi, comme, encore une fois, je me rends compte de mes limites. Et une association, ça m'irait bien, en fait, je crois. Ouais. Bosser à plusieurs, on serait plus efficace, quoi. On aurait plus de matos et il y aurait plus de petites mains, quoi. Donc ça, ce serait pas mal. Après, on revient toujours au même problème, il faut un bon paquet de terre d'un seul tenant, quoi. Irrigable. C'est pas si facile.
Ouais. Avec maison attenante.
Avec maison attenante. Si possible, orienté sud avec un peu d'ombrage l'été, quoi.
Merci, Guillaume.
Merci à toi.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.